Jean Lebrun, un dernier vif cette semaine avant que vous ne filiez au rendez-vous de l'histoire de Blois. On a beaucoup répété depuis mardi que l'Église avait le tort de vivre sous domination masculine. Aux prêtres, faut-il vraiment dire mon père? Aux évêques, faut-il dire mon seigneur? Eh bien, au XVIIe siècle, on disait de Bossuet, évêque de Meaux, qu'il était monsieur de Meaux. On appelait Fénelon, archevêque de Cambrai, monsieur de Cambrai. Et Fénelon a été le fils spirituel d'une mystique à l'influence considérable à l'époque, Madame Guyon. C'était elle qu'il dirigeait, inversion des genres. Faut dire tout de suite que Madame Guyon a fini en résidence surveillée en 1717 à Blois, une ville qui était donc déjà au rendez-vous de l'histoire.
Alors si on revient au début de sa vie, Jeanne de la Motte Guyon était dès le premier jour une survivante, née prématurée, à moitié morte, éduquée ensuite à la va comme je te pousse, et livrée de force à 16 ans, un époux brutal. Elle vit le mariage comme un esclavage. Sa première expérience de dépossession, voire d'abjection de soi, déjà la mystique. La mort de son Barbon. Barbon, ça va, oui.
Oui, ça va.
Beaucoup plus vieux qu'elle. Elle avait 28 ans quand il est mort. Lui laisse la liberté et une fortune. Elle ne voudra pas de remariage ou seulement avec l'enfant Jésus. Ben oui, parce que il y a une école de spiritualité française qui insiste alors sur l'image de l'enfant né de la crèche et dépendant de Marie. Madame Guyon disait, quand Jésus petit avait un cauchemar, eh bien, il se jetait, comme tous les bébés, dans les bras de sa mère. Il y a en Dieu tous les états, y compris la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Saint Paul, dans les petits cercles que Madame Guyon commençait à animer de sa présence, elle insistait sur la disponibilité qu'il faut pour entendre la parole, la simplicité de la chambre. La parole entre par la porte ou la fenêtre. Ainsi s'exprime-t-elle dans un maître livre paru en 1684, moyen court pour faire oraison.
L'année suivante, elle rencontre une grande personnalité du catholicisme, Fénelon, qui sera appelé à devenir le précepteur des héritiers de Louis XIV et archevêque de Cambrai.
Et on le surnommera, ce monsieur de Cambrai, le cygne de Cambrai. Madame Guyon, elle ne nomme pas Fénelon monseigneur, ni mon père. Elle dit mon enfant. Et elle lui recommande de se dessaisir, lâcher prise, vous voyez. L'abandon, c'est plus fécond que les actes qu'on peut accomplir. Et Fénelon répond qu'en effet, il n'est jamais aussi joyeux que lorsqu'il se retrouve dans sa chambre, priant comme joue un enfant. Mais l'aigle de Meaux, oui, monsieur de Meaux, l'évêque de Meaux, Bossuet, le dictateur de la doctrine, veille. Fénelon, jusque-là, avait été son protégé, et il ne voit pas d'un bon œil Madame Guyon le supplanter, non plus qu'il n'accepte l'influence grandissante qu'elle exerce sur Madame de Maintenon, épouse du roi Morganatique.
Morganatique, oui, de conditions inférieures et mise de côté.
Et donc c'est un peu secret comme mariage.
Clandestine, voilà.
Et Bossuet tente de faire condamner les positions de Madame Guyon, ou supposait-elle, par Rome.
Bref, l'aigle de Meaux est plus fort que le cygne de Cambrai.
Oui, vous savez qu'il y a à Versailles un salon de la guerre et un salon de la paix, dont Fénelon, dans son enseignement de précepteur royal, faisait le choix. Mais Louis XIV, lui, habitait davantage celui de la guerre, en compagnie de Bossuet. On dirait aujourd'hui que le conflit opposait un principe paternel acquis au pouvoir absolu et un univers féminin incarné par Madame Guyon et que Fénelon avait rallié. Pendant que Monsieur de Cambrai, disgracié et renvoyé à son siège épiscopal, Notre-Dame est emprisonnée à Vincennes, Vaugirard, puis à la Bastille, tour à tour dans la fournaise et l'obscurité glacée. Ses interrogateurs veulent d'abord l'accuser de mœurs dissolues, mais sa doctrine de l'abandon ne l'empêche pas de résister, farouchement. Et il s'avère aussi impossible de la présenter en chef de secte. Au bout de 8 ans, 1702, le souverain finit par entrouvrir la cage. Il est à noter que Madame Guyon n'avait cessé d'y chanter, posant ses paroles sur celles des airs d'opéra.
Et elle a rendez-vous, comme vous, avec Blois.
À 55 ans, en résidence surveillée, elle. Elle a renoncé à toute publication, mais elle continue à correspondre avec ses amis, notamment ceux de Cambrai. Et son salon reçoit des disciples qui voyagent entre Blois, Paris, l'Écosse, la Hollande. Louis XIV n'est plus quand elle meurt en 1717. Mais la répression systématique par l'absolutisme des minorités religieuses n'a pas seulement provoqué l'exode des Huguenots, le supplice des jansénistes, mais aussi ce qu'on a appelé le crépuscule des mystiques, et ça a été une grande perte pour la France. La ville de Blois, qui accueille les rendez-vous de l'histoire, vous l'avez dit, je crois, et qui, comme la plupart des municipalités, cherche à féminiser ses noms de rue, s'honorerait d'en attribuer une à Madame Guyon.
Blois, vous y êtes demain, 18h, pour Intelligence Service en direct?
depuis la médiathèque de l'abbé Grégoire. Le sujet, ce sera Marx et le travail.
C'est bien noté. Merci Jean Lebrun.